Cause à effet, le magazine de l'environnement.
Leur passion pour la nature et leur art les a réunis. Depuis quelques années, ces joyeux lurons prennent leur bâton de pèlerin et se posent en troupe dans des jardins publics, des lieux de nature où les spectateurs peuvent venir les découvrir et découvrir aussi ce rendez-vous insolite. Faire passer le message de l'amour de la nature par la sensibilité, tel est leur pari. Un piano sur l'herbe, des textes de Georges Sand, Léonard de Vinci, Balzac, Victor Hugo, Claude Nougaro et la magie opère. Depuis des siècles, de grands auteurs ont réfléchi à l'impact des hommes sur la terre et le vivant. C'est ce qui a motivé le pianiste Patrick Scheider, auteur, compositeur et improvisateur, qui a imaginé ces spectacles. Des jardins et des hommes en plein air. Et il offre des textes forts au public, accompagnés par la musique. Des écrits qui nous font réfléchir et qui nous questionnent sur l'environnement et les enjeux d'aujourd'hui. Bonjour Patrick Scheider.
Bonjour.
Vous entraînez au fil du temps avec vous des comédiens, alors comme Michael Lonsdale, ouais. Ici présent. Bonjour Michael Lonsdale.
Bonsoir, oui.
Ravi de vous accueillir. Et puis vous embarquez aussi des personnes comme Marie-Christine Barrault, des amoureux défenseurs de la nature, ouais. Comme Hubert Reeves, Boris Cyrulnik, Francis Allais ou encore Alain Bougrain-Dubourg. Bonjour à vous.
Bonjour.
Je rappelle que vous êtes journaliste, membre du Conseil économique, social et environnemental et puis président de la Ligue pour la protection des oiseaux, la LPO. En tout cas, toute cette petite troupe forte d'une sensibilité à la nature va à la rencontre du public en pleine nature à travers toute la France pour des moments partagés très intenses entre musique et nature. Nous allons le découvrir aujourd'hui avec vous, des artistes côté jardin, c'est le thème de notre émission, en partenariat avec la rédaction des pages Planète Science du journal Le Monde, préparé toujours par Anaïs Morales, avec des complices, Anne Gouzon, Valérie Arnoux, Caroline Chausset, Vanessa Chang. L'émission toujours réalisée par Alexandra Malka, avec à la technique aujourd'hui, Élise Leu. Bonjour à tous et bienvenue.
Les plantes voyagent, les herbes surtout. Elles se déplacent en silence à la façon des vents. On ne peut rien contre le vent. En moissonnant les nuages, on serait surpris de récolter d'impondérables semences mêlées de l'os, poussière fertile. Dans le ciel déjà, se dessinent d'imprévisibles paysages. Le hasard organise les détails, utilise tous les vecteurs possibles pour la distribution des espèces. Tout convient au transport. Des courants marins aux semelles des chaussures. L'essentiel du voyage revient aux animaux. La nature affrète les oiseaux, consommateurs de baies, les fourmis jardinières, les moutons calmes ou subversifs, dont la toison contient des champs et des champs de graines.
Patrick Scheider, vous êtes à l'origine de ces spectacles, oui. Qui se déroulent en plein air pour la saison 2019. Je crois qu'il y a une cinquantaine de jardins ou de parcs qui seront investis par vos spectacles. Alors, revenons peut-être à l'idée d'origine. Mmh. On entendait à l'instant votre ex-femme, comédienne, Monique Scheider.
Tout à fait.
Tout part en 2005?
Oui, vraiment, tout part en 2005. Et souvent on me demande, mais comment tu as eu cette idée? Ben, je suis incapable de la justifier. Voilà. Ce qui pour moi est très important, parce que comme tous les pianistes, je jouais dans des salles noires, obscures, tranquilles, calmes, non lié aux intempéries. Et puis un jour, j'ai eu cette idée, surtout après avoir visité Jadot de Chenonceau et puis le Clos Lucé en Boise, là où est mort Léonard de Vinci. Et je ne sais pas comment ça se fait, j'ai tout de suite dit, il faut qu'on fasse un spectacle dehors. Musique, texte, avec les jardiniers sur le thème de la nature. Donc changer totalement d'optique, se mettre exposé finalement, d'abord sur l'espace vert public et ensuite au temps. Ça c'est très important, le temps qui passe et le temps qu'il fait. Et c'est intéressant de se mettre en danger dehors, parce qu'il y a la concurrence des bruits, oui alors il y a le vent, les oiseaux, les enfants qui jouent, mais tout ça c'est la vie, voilà. Je crois que j'ai besoin de vie, peut-être que la salle noire, obscure et trop calme.
Donc finalement les ingrédients de vos spectacles, l'amour de la musique, votre goût pour les textes, votre sensibilité à l'écologie, l'improvisation,
oui.
Des artistes et des jardiniers.
Oui, les jardiniers c'est très important cette histoire. C'est-à-dire que bizarrement, moi qui suis du domaine dit culturel, je suis allé voir les directeurs de services espaces verts, les jardiniers voilà, des villes, et je les ai convaincus. Donc au départ, je me disais ils vont me prendre pour un fou. Le premier que j'ai contacté c'était le directeur des espaces verts de Rennes, je m'en souviens. J'ai commencé à parler, je lui disais, il va m'arrêter en disant, non, c'est pas le bon service. Ben non, il m'a écouté, il m'a dit, ben venez me voir. C'est comme ça que ça a démarré. Peu après, j'ai rencontré Gilles Clément, paysagiste, qui joue du piano, qui aime la musique, etc. Et tout s'est enchaîné. Il m'a dit, mais ce que tu fais, ça peut aider les collectivités à faire passer des messages sur ce qu'on appelle nouvelles pratiques, le zéro phyto, la gestion différenciée, laisser pousser l'herbe. Et c'est comme ça qu'on est entré dans quelque chose qui associe des finalement une considération très pragmatique, très technique, d'entretien d'espace vert, avec le rêve. Et bon, on en parlera certainement tout à l'heure, mais je trouve que c'est dommage que les jardiniers, on les considère pas comme des artistes, parce que tout artiste est à la fois technicien et aussi avec une forte sensibilité. C'est exactement ce que sont les jardiniers. Il faut leur reconnaître ça.
Alain Bougrain-Dubourg, donc ce qui vous rassemble tous, alors c'est votre âme verte, c'est ça?
Oui, bon d'abord j'ai été fasciné par Patrick qui a une capacité de conviction incroyable. Quand il veut quelque chose, globalement, il l'obtient avec une apparente naïveté, c'est-à-dire que ça doit se faire parce que c'est une bonne chose. Et en général, ça se fait. Mais ce que j'ai aimé dans sa démarche, c'est qu'on reproche très souvent aux protecteurs de la nature de vouloir mettre la nature sous cloche. Or, au contraire, dans cette démarche, avec Michael, avec Patrick, avec d'autres, Marie-Christine Bau, etc., c'est le partage. Quel bonheur! Quel bonheur d'être en complicité avec des gens qui sont là pour sentir, toucher, écouter, regarder. Il y a un partage extraordinaire. Je peux vous assurer que ça compense quelques combats où on rentre un peu frustré le soir à la maison.
Vous voulez dire derrière les portes des ministères, c'est
par exemple,
ou dans certains cabinets? On a bien compris. Des amoureux de la vie, de la biodiversité, des vieux copains aussi, hein, peut-être, non? En tout cas, vous êtes tous des citadins, c'est sûr, avec ce besoin d'arbres et de jardins, on peut dire.
À l'origine, citadin, oui, je suis né à Paris, mais j'ai quitté Paris quand j'avais dans les 18 ans. Après, j'ai vécu en banlieue, à l'Isle-d'Adam, c'était agréable, mais il y avait encore trop d'avions. Alors après, on est allé dans la Sarthe. Là, c'était vraiment la campagne. J'oppose absolument pas du tout la ville à la campagne. Pour moi, j'ai besoin des deux en alternance. J'aime les deux, vraiment, foncièrement, fondamentalement.
Michael Lonsdal, vous êtes un écologiste dans l'âme?
Paraît-il. Non, la nature, je l'aime. Là, il y a tellement de richesses, tellement de possibilités, de rêves. Et d'être enchanté par moments. Vive les couleurs, vive les aperçus qu'on a, et puis les fleurs, ça pleure et ça parle. Il faut tendre l'oreille et on perçoit des choses comme ça, très intimes, et qui sont chatoyantes et en tout cas d'une grande véracité.
Et si j'ai bien compris, je crois que vous avez même réussi à faire revivre une plante chez une de vos amies, en lui parlant?
Oui, il y avait comme ça dans le salon, un bout de bois qui dépassait d'un pot, comme ça. Alors je dis, mais c'est quoi ça? Ah, c'est une très belle plante qui nous faisait des fleurs magnifiques. J'ai dit, et alors? Ah ben c'est terminé maintenant. Ah, mais vous lui avez parlé à cette plante? Oh non, écoute, ne fais pas rire. Elle ne vit plus. Ah tiens, alors je lui ai fait un petit speech, une caresse comme ça, quelque chose qui me faisait tellement plaisir parce que je me suis dit, ce pauvre petit bout de bois, finalement, bon, eh ben, il n'est pas honoré. Hein. Mais à mon étonnement, la semaine suivante, cet ami m'appelle et me dit, dis donc ton bout de bois là. Il a commencé à bouger. Alors là, j'ai dit, ça y est, bravo. Oui, il faut leur parler aux plantes. Hein.
Dialoguer avec la nature. On va dialoguer avec vous justement et vos natures, vos jardins de prédilection. Plongeons dans ces lieux qui vous ressourcent les uns les autres. Allez, petit tour de table. Alain Bougrain-Dubourg, quels sont vos lieux de prédilection à vous?
C'est l'île de Ré, c'est la mer. Et pas celle qui est figée en Méditerranée, je ne m'en veux pas, celle-là, elle est belle quand même. Je l'ai fréquentée aussi un peu. Non, l'Atlantique qui bouge à chaque instant avec les marées et qui est un lieu d'accueil pour une multitude d'oiseaux. Et on a la chance d'avoir un pays extraordinaire qui est un carrefour de migration formidable où vous avez par exemple des oiseaux fascinants comme les bernaches cravants qui abandonnent la Sibérie Parce qu'il fait trop froid pour venir se réfugier ici, chez nous, et singulièrement dans l'île de Ré. Et donc, il y a ces oies qui parlent sans arrêt. Elles sont un peu comme moi. Ça papote, on ne sait pas ce qu'elles se disent, mais elles sont en communion constante. Et puis après, quand il commence à faire meilleur, elles repartent pour donner la vie là-haut. Oh, je vais vous raconter un truc incroyable sur les oiseaux qui bougent. Les hirondelles, c'est le moment, elles sont revenues chez nous. Figurez-vous qu'on a découvert que les hirondelles qui naissent en France vont passer l'hiver en Afrique francophone. En Afrique de l'Ouest. Les hirondelles qui naissent en Angleterre vont passer l'hiver en Afrique anglophone, en Afrique australe et en Afrique du Sud. On n'a aucune explication, il n'y a probablement aucun rapport avec le langage, mais c'est ainsi.
Michael Lonsdale, alors vos jardins à vous, de prédilection?
Oh oui, j'avais une tante merveilleuse qui adorait les fleurs. Elle avait tellement de plantes chez elle que ça commençait à devenir un peu dangereux. Alors elle a changé d'appartement pour changer pas de plantes. Et quand j'allais là-bas, c'était un enchantement odorant.
Et puis après, c'est plutôt le Maroc, l'Algérie, qui vous envahit avec les bougainvilliers, avec une floraison incroyable.
Une richesse énorme, des murs entiers de fleurs. Rabat, la forteresse des Odeya, qui était un petit paradis, avec les cigognes qui avaient fait leur nid sur les remparts, et dans les plates-bandes de fleurs, je savais pas le nom, mais j'avais une amie peintre, enfin une madame, qui m'invitait dans son atelier. Et c'est là que, dans les livres, j'ai vu les plantes, le Denis Rousseau, par exemple, et puis les impressionnistes, bien sûr, qui se sont tellement inspirés des fleurs.
Patrick Scheider, vos lieux à vous, vos jardins qui vous inspirent, quels sont-ils?
Moi, j'aime beaucoup la vallée de la Loire où j'habite, la Touraine. Voilà. Il y a une douceur, il y a une tendresse, il y a un rêve qui s'en dégage. C'est un paysage à la fois agricole et à la fois de culture de l'esprit, de culture du sol. Il y a les châteaux. Voilà, ils n'ont pas tous forcément un très beau jardin, mais je sais pas, il y a une atmosphère d'amour finalement de la nature, de soins et d'équilibre aussi, qui est très très particulière avec cette lumière aussi. Et ma première impression très très forte, c'était justement quand j'avais dans les 15 ans, je suis allé visiter le Clos Lucé avec mes parents en Boise, là où est mort Léonard de Vinci. Ça m'avait frappé, mais ce qui m'a encore mieux frappé, c'est quand on est parti, il y avait un coucher de soleil sur la Loire, avec un aspect cuivré orange magnifique. Et je retrouvais il n'y a pas longtemps ce coucher de soleil. Je suis resté exprès jusqu'à l'heure dite pour le voir. Ça n'a pas bougé. C'est toujours aussi ensorcelant. Et puis le voyage qu'on a fait avec Michael l'année dernière en Algérie aussi m'a beaucoup frappé. On a passé 12 jours en avril dernier, donc il y a pile un an. Et la nature là-bas, j'ai trouvé aussi fabuleuse. On a fait tout le voyage en voiture de Constantine à Annaba. Il y avait justement ces cigognes que Michael évoquait en très 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 grand nombre. Et puis une terre finalement qui était à moitié en friche, à moitié cultivée, et laissée assez à l'état sauvage, il faut bien le dire, un peu abandonnée. Et les singes, quand on est allé à Tibérine, voilà.
Les magots, il y a du trafic avec ces pauvres bêtes, ouais. Parce que malheureusement, on capture les bébés, on les vend aux touristes, ce qui est complètement interdit. Et les touristes les achètent en se disant comme ça, je vais sauver ce bébé, magot. Et chaque fois qu'ils pensent en sauver un, chaque fois on en capture un nouveau pour le mettre sur le marché. Et ces animaux sont saisis en France et se retrouvent, il y a près de Lyon, un parc zoologique avec la fondation Bardot, du reste, qui les accueille. C'est un vrai problème, le trafic des magots. Oui.
Alors justement, Patrick Scheider, on se pose la question, quand vous faites le choix de textes, ces textes qu'on vit dans la nature, dans ces jardins, avec vous au piano, est-ce que vous êtes soucieux de choisir des textes qui partent sur ces thèmes-là, c'est-à-dire soit qui dénoncent, soit qui interpellent sur les enjeux de l'environnement, sur les débats aussi aujourd'hui autour de l'écologie.
Il y a d'abord l'idée d'informer les gens que le soin de la nature, ce qu'on appelle l'écologie au sens large du terme, et la biodiversité ne sont pas des concepts récents parce qu'il y a réchauffement climatique, on a découvert ça et maintenant au secours, il faut inventer des solutions tout de suite et on ne sait pas quoi faire. Parce que ce n'est pas vrai, c'est faux. Voilà, il y a des gens qui ont écrit là-dessus, ça ne s'appelait pas biodiversité, mais qui ont en parlé exactement dans les termes que maintenant on regroupe sous ce terme. Je pense notamment à Georges Sand, je pense justement à Léonard de Vinci. Parce qu'ils connaissaient la nature, et puis d'autres par intuition, comme Victor Hugo, par exemple. D'autres encore plus connus, comme Rousseau, qui était à la fois un penseur et à la fois un peu jardinier de son esprit comme du sol. Et c'est montré qu'il y a toute cette diversité, qu'il y a une réflexion, qu'on n'est pas abandonné dans un monde nouveau et on est désemparé, mais qu'avec un peu de culture, on peut se trouver des alliés, finalement. C'est important, ces racines. Surtout que les Français adorent le patrimoine. Et il est là, c'est Georges Sand qui a sauvé la forêt de Fontainebleau de l'abattage après la guerre de 1870. C'est aussi la preuve que les artistes en se fédérant peuvent obtenir des choses que les jardiniers ou les paysagistes n'obtiennent pas toujours, donc ça c'est super important. Ils ont fondé avec Victor Hugo un comité de défense de la forêt de Fontainebleau, parce qu'il était question d'abattre les arbres d'origine de la forêt pour les remplacer par des pins et puis construire des maisons, enfin bref, faire de l'argent. Alain m'en avait parlé de ça. Il y avait eu un procès sous Napoléon III déjà, III, oui. Voilà. Et je crois que les peintres de l'école de Barbizon, qui étaient en plein milieu de la forêt...
s'étaient mobilisés.
Oui, bah, oui, voilà. Tout à fait.
Ils sont allés arracher les plants, voilà. Comme un peu comme les faucheurs de Weiss, ouais, OGM. Et puis on a récidivé avec la République, voilà, en 1871. Georges Sand a fait un texte extraordinaire d'une douzaine de pages, qui est documenté, parce qu'elle savait ce dont elle parlait. Elle gérait à Nantes, dans le Berry, une terre de 200 hectares. Elle sait ce dont elle parle, voilà. Donc elle a cette force d'en parler à la fois en tant que poétesse, et aussi en femme du terrain. Ils ont obtenu ce qu'ils voulaient. Ça a cessé.
Et non, du reste, oui. L'UICN, l'Union Internationale de Conservation de la Nature, qui est un organisme international extrêmement intéressant, puisqu'il nous fait l'état des lieux du vivant sur la planète, a planté ses racines à Fontainebleau en 1948, en souvenir de cette première réserve qui a été retenue comme une réserve, mais pas au sens d'aujourd'hui. Il y avait du paysage, de l'esthétisme, il y avait de la communion avec la nature, j'ai envie de dire, à l'époque. Hein. Après, on a créé les réserves naturelles de France et bien d'autres choses. Mais et c'était avant Yellowstone, avant les Américains, donc cocorico.
Donc ces auteurs que vous nous proposez, que vous nous faites entendre et découvrir, c'était des vigies de leur temps, il faut le souligner, et donc qui nous interpellent bien sûr sur les enjeux environnementaux d'aujourd'hui, la déforestation, la condition animale, la biodiversité. Oui. Nous allons juste permettre aux auditeurs de plonger un petit peu dans ces textes-là. Alors au choix, Georges Sand ou Victor Hugo, lu par Michael Lonsdal, bien sûr. Vous avez envie de quoi ?
Georges.
Allez, Georges Sand.
Georges Sand, c'est parti.
Je préfère aux jardins arrangés et soignés ceux où le sol, riche par lui-même de plantes locales, permet le complet abandon de certaines parties, et je classerai volontiers les végétaux en deux camps, ceux que l'homme altère et transforme pour son usage et ceux qui viennent spontanément. Vous en semez, vous en plantez, ils vous appartiennent. Vous suivez l'équilibre naturel, vous créez et détruisez, mais n'abîmez pas inutilement les secondes. Elles sont bien plus délicates, plus précieuses pour la science et l'art, ces mauvaises herbes, comme les appellent les laboureurs et les jardiniers. La passion de l'horticulteur fait tant de progrès que peu à peu, tous les types primitifs disparaîtront peut-être, comme a disparu le type primitif du blé. Pénétrons donc avec respect dans les sanctuaires où la montagne et la forêt cachent et protègent le jardin naturel.
Georges Sand, le jardin naturel. Patrick Scheider, une femme parmi d'autres femmes, mais à l'époque, vous avez certainement plus de textes d'hommes que de femmes qui s'étaient engagées.
Oui, c'est juste. Il y a aussi beaucoup plus de textes de gens qui aiment la nature d'une façon symbolique ou purement affective. Je pense à Lamartine, à Chateaubriand. Elle, sa spécificité, c'est de la connaître tout en l'aimant. Et mieux elle la connaît, mieux elle l'aime encore. C'est d'ailleurs quelque chose qu'elle partage avec Léonard de Vinci, qui a besoin, pour aimer profondément une chose, de la connaître, de l'analyser. Voilà. Et cette analyse n'est pas froide. Et ça répond à l'autre partie de votre question de tout à l'heure. C'est-à-dire, je pense que c'est très important de ne pas parler d'écologie toujours en termes techniques ou scientifiques, qui sont bien évidemment nécessaires, ça c'est logique. Mais la sensibilité, c'est très important. Je crois que si on devient écologue juste par raison, c'est pas suffisant. Il faut aussi que le cœur y soit engagé.
Victor Hugo disait une très jolie phrase, alors moi je l'applique à la nature que tu viens d'évoquer. Il disait « Le beau est plus utile que l'utile ». Et au fond, cette nature, on ne la considère qu'à partir du moment où on estime qu'elle est rentable, qu'elle est utile. Exactement. Tout ce qui n'est pas utile, on le laisse sur le bord du chemin, et c'est comme ça qu'il y a beaucoup d'espèces qui disparaissent, et on ne se rend pas compte qu'elles appartiennent à un tissu. Enfin, dans cette émission, on sait tout ça. Et quand Hugo nous dit « le beau est plus utile que l'utile », je trouve qu'il nous invite à porter un autre regard sur la nature, mais tout aussi indispensable. J'ajouterais aussi qu'on est quand même les dominants sur la planète. On est les plus forts. En quelques milliards de secondes à l'échelle de l'histoire de la planète, 4 milliards et demi d'années, bon, on est devenus les dominants. Et on a un devoir éthique à l'égard des plus faibles. Tout bêtement, tout simplement, on a un devoir de compassion à l'égard des plus faibles. Et la planète est la plus faible aujourd'hui, elle est fragilisée. Oui.
Michael Lonsdal, face à ce public, quand vous lisez les textes, que vous êtes dans un jardin et qu'il y a le piano qui vous accompagne, est-ce que vous sentez véritablement que votre message à travers les textes passe différemment et qu'il y a quelque chose qui se passe avec le public?
Oui, bien sûr, parce qu'il y a quand même une ouverture sonore. Il n'y a pas de mur, il n'y a pas de... On est très libre. Alors là, on peut se laisser aller à inventer et à souhaiter. Et des fois, à essayer quelques petites propositions comme ça dans la tête. Telle plante à côté de telle plante, qu'est-ce que ça va donner?
Ça rejoint ce que disait Patrick Scheider au début de l'émission, c'est le rôle des jardiniers aussi. Hein, telle plante à côté de telle autre, et vous êtes un jardinier.
Oui, ce sont des artistes et des créateurs.
Hein. Je crois que le jardin, enfin la nature de façon générale, a un seul défaut, c'est de ne pas pouvoir parler. Voilà, on ne perçoit pas que des plantes nous appelleraient en disant « fais attention à moi ». Encore un animal peut crier si on lui tire la queue, mais bon, une plante, non. Et ce qu'on a remarqué avec les jardiniers, c'est que faire de l'art au jardin, de la musique ou des textes, les arts plastiques, c'est encore un rapport différent. Ça crée une communication qui font que les gens se rendent compte qu'ils sont à côté de plantes vivantes. Alors, je ne sais pas comment ça se fait. Hein. Enfin, c'est un peu le rôle de l'art de ne pas savoir ce qu'il fait, mais de le faire. Et ce que nous disent les jardiniers, ça rend conscient qu'on est dans une atmosphère vivante et pas un décor. Et on a voulu se battre contre cette notion et nous rendre immédiatement accessibles. C'est-à-dire, il n'y a pas de scène, il n'y a pas de podium. On est à même l'herbe, qui généralement est haute. Gilles Clément a fait une petite création végétale à ce propos. Et on est en toute simplicité. Le public s'assied sur des bottes de paille, il peut s'étendre. Il peut aussi arriver, repartir, revenir. Alors, quand on a des enfants, c'est pas évident de laisser une heure et quart, quoi, comme ça. Eh bien, d'abord, très souvent au premier rang, les petits-enfants de 4-5 ans, ils restent comme ça. Voilà, pendant une heure, alors qu'à mon avis, ils ne comprennent pas la moitié des choses, mais ça, c'est pas grave. Voilà, on peut arriver avec un petit 2 ans, il commence à crier, on s'éloigne, on revient. Pour moi, c'est ça, l'art, il doit être utile. Cette notion d'utilité, moi, je la défends vraiment. C'est pas du pragmatisme, c'est que si l'art était inutile, il y a longtemps qu'on l'aurait abandonné. Les hommes préhistoriques, ils avaient autre chose à faire, a priori, ils devaient défendre leur vie que de peindre. Pourtant, ils ont peint. Donc, c'est que ça nous est nécessaire. Quant aux causes, je les ignore, mais ça, c'est pas très important. C'est la conséquence qui est importante.
Alain Bougrain-Dubourg, donc vous êtes embarqué dans tout ça.
Oui, avec bonheur, parce que Patrick, par pudeur, ne parle pas de son rapport avec son piano.
On va en parler.
Il faut le voir. Il faut le voir d'abord. Bon, c'est un virtuose. Chopin, Beethoven, Mozart, enfin, il nous embarque dans une arche de musique, de notes admirables, etc. Et puis, parfois, il se jette sur son piano, il improvise. Donc, comment ça s'appelle quand le haut du piano qu'on ouvre?
Oui, le couvercle, quoi.
Le couvercle, on va dire. Bon. Et à la fois, il pianote, il est sur les touches d'une main, et de l'autre, il va gratter comme une guitare ou un... Et c'est harmonieux, ça se laisse bien. Alors, on se dit, mais qu'est-ce qu'il lui a fait, ce pauvre piano, pour être aussi maltraité? Et il s'en dégage quand même quelque chose de génial. Et c'est le bonheur de ce genre de spectacle. C'est toujours au dernier moment qu'on choisit les textes en fonction de l'ambiance et les musiques de la même manière.
Se sentir libre et donc faire en sorte que le public sorte aussi de ses cases, de ses zones de confort, c'est ça qu'on cherche?
Je crois qu'il y a de la convivialité. On n'a pas tous des compétences, ni en tant que naturaliste, ni en tant que musicien, ni en tant qu'écrivain ou lecteur attentif des grands classiques. Et tout ça va se composer, va s'harmoniser dans la convivialité, le respect de l'autre, le bonheur. C'est vraiment le temps qui s'arrête. Hein. Moi, je suis comme Michael, j'ai découvert ça, mais quand Patrick me l'a proposé, je lui ai dit, attends, est-ce que je suis fait pour ça? Mais c'est une drogue, c'est génial. Et les gens sont gentils. Après, ils viennent parler avec vous, il y a de l'harmonie, c'est vraiment très agréable.
Alors, on va voir tout de suite si vous êtes fait pour ça, mais rassurez-vous, nous aussi, on est gentils. Vous avez préparé un texte, Alain Bougrain-Dubourg, allez-y, improvisez dites-nous quelques mots.
On parlait des précurseurs, il y a un personnage formidable qui est le chef Seattle, on est en 1854, il dirige la tribu des Suquamish, et malheureusement, les Blancs l'oblige à vendre son terrain, ses terres. Il s'adresse à son peuple, tout en s'adressant également au grand chef de Washington. Et voilà ce qu'il dit. « Nous allons considérer votre offre, car nous savons que si nous ne vendons pas, l'homme blanc va venir avec ses fusils et va prendre notre terre. Mais peut-on acheter ou vendre le ciel, la chaleur de la terre ? Étrange idée pour nous. » Si nous ne sommes pas propriétaires de la fraîcheur de l'air ni du miroitement de l'eau, comment pouvez-vous nous l'acheter? Le moindre recoin de cette terre est sacré pour mon peuple. Chaque aiguille de pin luisante, chaque grève sablonneuse, chaque écharpe de brume dans le bois noir, chaque clairière, le bourdonnement des insectes, tout cela est sacré dans la mémoire et la vie de mon peuple. La sève qui coule dans les arbres porte les souvenirs de l'homme rouge. L'air est précieux à l'homme, car toutes choses partagent le même souffle. Les bêtes, les arbres, l'homme, tous participent au même souffle. Je suis un sauvage et ne comprends pas les autres usages. J'ai vu 1000 buffles pourrir sur la prairie abandonnée par l'homme blanc qui les avait abattus d'un train en marche. Je suis un sauvage qui ne comprend pas que le cheval de fer fumant puisse être plus important que le buffle, lui, que nous tuons, que pour rester en vie. Qu'est-ce que l'homme sans les bêtes? Si toutes les bêtes disparaissent, l'homme mourrait d'une grande solitude de l'esprit, car tout ce qui arrive aux bêtes ne tarde pas à arriver à l'homme. Toutes choses sont liées. Ça continue, c'est magnifique ce texte.
Bon, je vous rassure, vous êtes fait pour ça. Alain Bougrain-Dubourg. Patrick Scheider, quand vous écoutez ce texte-là, quelle musique vous vient à l'esprit tout d'un coup?
Alors souvent, c'est une improvisation. Parce que je pense que l'improvisation, c'est quand même peut-être ce qui colle le mieux au fait de jouer dehors. Parce que la nature, elle improvise en permanence. Le coup de vent, la germination des graines, tout ça est prévisible, en même temps imprévisible dans son rythme et dans ce qui va devenir. Et je pense que l'improvisation musicale est faite pour ça. Et d'ailleurs, c'est ce que j'adore chez Alain, c'est ce que j'adore chez Michael, c'est que ce sont des grands improvisateurs. On n'a pas, comme vous disiez tout à l'heure, de cadre. Bien sûr, on sait ce qu'on veut dire, mais on a plein de façons de le dire différentes. Comme la nature le fait. Et puis c'est évolutif. Je pense que pour donner envie aux gens à l'écologie, parce que c'est ça dont il s'agit, je pense que peut-être... Depuis un certain temps, on s'y prend assez mal parce qu'on a tendance un peu à les dégoûter avec des discours qui paraissent moralisateurs alors qu'ils ne le sont pas. Ce sont juste des discours de bon sens. Mais la façon de le dire, c'est super important. C'est pas seulement de la communication. C'est aller jusqu'au cœur des gens pour qu'ils le sentent et qu'ils le comprennent. L'art, c'est fait pour ça.
Et côté musique, alors Chopin, Bach, Schumann, Liszt, Claude Nougaro. Et vous n'hésitez pas aussi à aller du côté du rap.
Ouais.
Vous avez proposé pour ce moment musical dans l'émission de Cause à effet, Oxmo Puccino. Mmh. Et alors, notre jeune stagiaire Maë Alliot a choisi Ton rêve.
Super.
Parole interdite, au moins de 30 balais. Retourne au confort quand le biberon te calait. Tes pensées naissent de papa, maman ou pas. Fréquemment leurs grands-parents sont coupables. L'espoir sans voyelle, paumé entre moyens. Publicité, la mode, le regard du voisin. C'est un exploit de penser par soi-même. Quelle que soit la fortune, on finit pauvre quand on exauce que les vœux des autres. Ton rêve, ton rêve.
quelques fourmis, beaucoup de cigales. Aucune chanson n'écrasera l'amigale. Un gosse qui ne manque de rien n'ira nulle part si on ne lui inculque rien. L'héritier mal renseigné va tout dilapider et kidnapper. La différence entre 10 et 1 million d'euros, pareil qu'entre un riche et un malheureux. Assis dans le cosmos, on l'audace de se moquer de ce qu'on pense et nous l'impose. Puis la nuit je cueille les mots, cherche une guitare et pose une démo. Un fou rire, je t'enfile une copie. Avec les poteaux on cultive l'utopie. L'imaginaire à remplir, creuser à plusieurs, c'est le début d'accomplir.
Scheider, Oxmo, oui. Puccino. Mmh. Alors, il y a une raison en particulier, on imagine.
Oui, parce que je trouve que c'est vraiment un poète, d'abord, c'est ce qui me plaît. Et puis ensuite, pendant 4 ans, avec la ville de Paris, on a travaillé sur les jardins d'Éole, un jardin dans le 18e arrondissement, derrière la gare de l'Est. Et là, j'ai fréquenté, du coup, beaucoup de, oui, de rappeurs, de slammers, de danseurs de hip-hop, de graffeurs. On a travaillé avec eux, on les a intégrés dans le spectacle. Et le cahier des charges, c'était, dans ce jardin où il y a 5 ou 6 jardiniers, de changer l'image du quartier, qui était mauvaise, il y a beaucoup de dealers, etc., par là. Voilà. Et on a travaillé avec les jardiniers, parce que ce qu'on n'a pas dit, c'est que dans le spectacle, souvent, les jardiniers participent. Ils font des actions de jardinage sonore, telles que enfoncer des pieux régulièrement, par exemple, et puis j'improvise un morceau à partir de leur rythme, ou ratisser des matériaux sonores comme du gravier, doucement, fort, lentement, vite, et on crée des atmosphères avec eux. Et donc les jardiniers se sont sentis bien à faire ça, et au fur et à mesure, ça faisait évoluer l'image d'un quartier qui était dur, etc., et de ce parc singulièrement, vers quelque chose où vous pouvez avoir de la tendresse. Ça a duré 5 ans, il y a de plus en plus de monde. Un jour, ils ont mis un piano dans le parc, dans plusieurs autres parcs, dans le 16e arrondissement, etc. Quasiment tous les pianos étaient vandalisés, sauf celui qui était au Jardin d'Éole.
Eh bien, on continue avec vous. Notre émission sur France Culture, consacrée à ces artistes côté jardin. Donc, Patrick Scheider, je rappelle que vous êtes auteur, compositeur et créateur de spectacles en pleine nature. À vos côtés, le comédien Michael Onsdahl, amoureux des beaux textes à faire vivre dans les jardins. Et puis également avec nous, Alain Bougrain-Dubourg, membre du Conseil économique, social et environnemental et président de la Ligue pour la protection des oiseaux et qui se prête volontiers à cette rencontre avec le public à travers toute la France. Un moment partagé intense avec vous et puis entre musique et nature, nous continuons ensemble l'aventure dans un instant, juste après notre petite revue d'infos environnement. Et une fois n'est pas coutume aujourd'hui, nous vous proposons une revue spéciale livre en cette période de vacances. Et tout d'abord, pour les jardiniers citadins, le livre « Végétaliser les mini-espaces urbains » de la paysagiste Leslie Garcia sera votre bréviaire et guide pour végétaliser les trottoirs, les murs, les clôtures, les terrasses, les friches, les pourtours d'arbres, votre coin de rue et créer ainsi des îlots de biodiversité et de convivialité. Un livre donc utilement accompagné d'un petit guide, le petit guide des fleurs sauvages de Sophie Padier, docteur en écologie. Ce petit guide est paru chez First Edition et il nous fait connaître pas moins de 70 espèces avec un tout petit livre qui tient dans la poche. Et puis pour ceux qui souhaitent plonger dans l'expérience de résilience vécue par Christine Laurent, ancienne journaliste de reporter, devenue chargée de mission aux espaces verts de Paris, à lire Mon jardin sans pétrole. C'est son récit paru au Seuil. Il s'agit de la chronique de sa relation avec un petit jardin de banlieue qu'elle cultive chaque week-end et qui a transformé sa vie. Enfin, pour les plus jeunes, dans la collection « Je me bouge pour ma planète » éditée chez Rue de l'Échiquier, deux nouveautés confiées à des spécialistes, « Mission jardiner la ville » de Frédéric Basset et puis « Mission sauver les abeilles » de l'apiculteur bien connu Gilles Clément. Et le dernier choix de notre sélection, c'est un livre qui peut être tout à fait familial, « La ruche et les abeilles à hauteur d'enfant ». Il a été commis aux éditions du Rouergue, mais par l'ingénieur agronome Fabrice Allier. C'est un guide parfait pour comprendre le monde des abeilles et son rôle essentiel dans la biodiversité.
France Culture, de cause à effet, le magazine de l'environnement. Aurélie Luneau.
Alors avant de poursuivre sur le spectacle qui vous rassemble, vous-même justement, les uns les autres, est-ce que vous avez été nourris à certaines lectures qui vous ont ouvert à l'environnement, Michael Lonsdale?
Oui.
Des livres peut-être lus dans l'enfance ou à un moment qui vous ont éveillé ou sensibilisé à la nature?
Oui, avec les Anglais, avec Dickens. Je trouve qu'il y a de la musique dans la langue anglaise. Les voyelles comme ça sont appuyées, c'est comme des bouquets de sons.
Finalement, les Anglais pionniers aussi, hein, je crois, en matière d'écologie, Alain Bougrain-Dubourg.
Oui, du reste, puisqu'on parle de jardin, on voit bien qu'il y a deux types de jardins. La manière française où on domestique, j'ai envie de dire, on emprisonne la nature, bien que y ait des jardins admirables, mais qui sont taillés au cordeau, etc. Puis les jardins anglais, où au contraire, on laisse vivre la diversité naturelle. Hein, et on voit bien nos deux cultures, l'une qui est vraiment tournée vers la nature. Et je regrette souvent que nous, les enfants de Cuvier, Buffon, Lamarck, etc., on n'a pas démérité, on naturaliste, on est un peu effacé cette attention que l'on a portée à la découverte du vivant. Et ce sont les Anglais qui, par bonheur, aujourd'hui, nous ouvrent et nous montrent la voie. Et on voit même en matière de tourisme, le whale-watching, l'observation des baleines. Bah, ça y est, en France, ça démarre plutôt bien, même depuis un moment, depuis quelques années, où on part voir les dauphins ou autre chose. Le bird-watching, où on observe les oiseaux à la jumelle en famille. Bah, ça, ce sont des activités qui sont pratiquées dans les pays anglo-saxons depuis toujours. En matière de pêche, je vais pas être trop long, mais on dit toujours au plan européen, il y a les amis des poissons et les amis des pêcheurs. C'est-à-dire que l'investissement des budgets européens, on le donne soit pour préserver les poissons pour en avoir davantage à pêcher, en faisant par exemple des lieux où on ne va pas y toucher, en ayant des périodes où on ne va pas les prélever, ou au contraire, comme la France, on va financer des équipements pour avoir des navires toujours plus performants, capables d'aller chercher encore plus loin, parce que près de chez nous, les poissons ont disparu. Donc amis des poissons, les Anglais, les Anglo-Saxons, amis des pêcheurs, les Français.
Votre livre à vous?
Moi j'ai été bouleversé par Moby Dick. Et c'est cette baleine, est-ce qu'elle voulait se venger, ce commandant d'une grande violence? Et puis c'était hors du temps, c'était sur des navires qui vivaient à huis clos, donc tout était possible, il n'y avait pas d'interdit, donc ça allait au-delà de l'animal. Mais enfin, j'ai eu une grande compassion pour ce cachalot blanc Moby Dick. Mmh. Et puis il y a eu évidemment Cro-Blanc et bien d'autres. Ça a été des ouvertures à la nature, oui bien sûr.
Patrick Scheider.
Alors pour moi, il y a d'abord eu le livre de la nature, c'est-à-dire qu'avec mes parents, on allait dans les forêts franciliennes, et l'odeur des... Surtout, l'automne des feuilles qui commencent à se décomposer, c'était un enchantement. Ça m'ensorcelait. Après, à l'adolescence, ça a été... quand j'étais à l'école, Rousseau, Jean-Jacques Rousseau. Ça m'a beaucoup remué, ça. Et puis ensuite, c'était Gilles Clément, que j'ai découvert il y a 15 ans maintenant. On avait une amie commune qui était la descendante par alliance de Georges Sand. Justement, c'est elle qui nous a mis en relation. Et ça m'a touché, cet homme, sa démarche humaniste, c'est important. Une autre rencontre très importante et libre, c'est Jean-Marie Pelt. Je pense que je peux tomber amoureux que de gens qui associent la sensibilité à une réflexion. Voilà, la réflexion seule ne peut pas me suffire. Alors ils m'ont vraiment convaincu, et puis il y avait une philosophie qui se dégageait de ça. Après, ça m'a amené vers des livres beaucoup plus anciens, comme le livre de Lucrèce, De Rerum Natura, Toutes ces explications d'essayer de trouver un dénominateur commun au vivant, c'est des efforts qui sont absolument essentiels, qu'on a fait dans l'Antiquité. On les a repris à la Renaissance, et je pense que maintenant, c'est le moment d'aller encore plus loin. Voilà. Mais c'est donc une vieille histoire.
Jean-Marie Pelt, qui, comme Michael Lonsdale, je crois, Michael, voit dans la nature l'empreinte de Dieu, quand même. Mmh. Et ce qu'il y avait de formidable chez Jean-Marie, c'est que c'était un très grand biologiste. Et il n'était pas créationniste pour autant. Mmh. Mais il y avait quelque chose de miraculeux dans cette nature. Enfin, on le ressent. Mmh. Et quand Patrick parle d'émotion, ben, ça participe de tout ça. Et on peut être à la fois un grand scientifique et en même temps être porté par une spiritualité. Et c'est ça qui est vachement intéressant, parce qu'on n'est pas dans un pragmatisme primaire.
C'est aussi le propre de vos spectacles, Patrick Scheider, c'est de rassembler autour de vous, dans ce projet, des humanistes. Ces spectacles, ce sont aussi des histoires de rencontres, finalement.
C'est très très important ce que vous dites, parce que je pense que s'occuper des petites fleurs, comme on dit, c'est peut-être quand même pas suffisant. Si on est cohérent, l'homme, il fait aussi partie de la nature. Alors, occupons-nous de l'homme. Tout à l'heure, on parlait des nouvelles pratiques telles que laisser pousser l'herbe, par exemple, entre les pavés. Il faut savoir que quand même, dans une ville, si on prépare pas les gens, ça peut être un casus belli, quoi. Tout d'un coup, les élus se reçoivent des lettres, quoi, c'est pas normal, on paye des impôts, en plus c'est pas entretenu, c'est abandonné, etc. Donc j'ai découvert que laisser pousser de l'herbe, ça pouvait être sujet d'une révolution, en quelque sorte. Alors, je pense, voilà, que cet aspect humaniste, c'est très très important. Ça permet de faire passer de l'amour. Je pense que la notion d'amour, c'est très essentiel dans tout ça. C'est peut-être là qu'on se rejoint tous les trois, et puis au-delà avec Jean-Marie aussi. Ce que je pense qui est important, c'est de pas seulement défendre la biodiversité végétale, mais aussi la biodiversité des cultures humaines. Voilà, ça c'était le progrès que j'ai fait ces 5 dernières années. Je me disais qu'on s'occupait peut-être un peu trop exclusivement des plantes, mais qu'il fallait intégrer l'homme là-dedans, sinon on pourrait les opposer à la rigueur. Alors, il faut traiter les cultures différentes, les différentes langues, les différentes cultures, comme, à mon avis, un essai de la nature pour diversifier l'espèce humaine, comme on diversifie les plantations d'arbres. Par exemple, si on n'avait pas planté que des platanes le long du canal du Midi, cette maladie les a tous tués d'un seul coup. S'il y avait eu non pas une monoculture, mais une diversité de cultures, on aurait préservé cette beauté. C'est la même chose pour l'être humain. Je crois que le jour où tout le monde parlera la même langue, aura la même culture, l'espèce humaine sera en danger. Et que c'est une stratégie de nature à laquelle l'homme n'échappe pas, que de créer la biodiversité pour que, dans tous les cas, y compris les pires, quelque chose subsiste.
Michael Lonsdale, si vous deviez être un élément de cette nature, animale ou végétale, ce serait quoi?
Oui, c'est cette fleur sud-africaine, Freesia. L'odeur qui sort de cette plante, c'est à tomber. Vraiment une plante presque intelligente, je trouve. Elle sent là où il faut aller et c'est pas commode.
Alain Bougrain-Dubourg, il y a une actualité autour de la biodiversité. Là, un grand symposium, je ne sais pas si on peut dire ça, c'est presque le GIEC de la biodiversité.
C'est comme ça qu'on l'appelle, l'IPBES. C'est un groupement des plus grands scientifiques du monde qui se consacrent à la biodiversité. Ils sont à peu près 1000. Ils font un état des lieux sur l'état de la biodiversité. Alors très franchement, on n'a pas encore les résultats du rapport, mais sans être dans le secret des dieux, je peux vous dire malheureusement que le déclin se poursuit. Et donc ils font un état des lieux constatant le déclin, et surtout à l'égard des gouvernants. Il y a plus de 150 pays qui sont intéressés par les travaux de l'IPBS. Eh bien, ils font des recommandations. C'est très intéressant. Ils ne se contentent pas seulement de faire un constat. Ils proposent, alors c'est par grandes régions de la planète, ils proposent des stratégies pour inverser la tendance. Mais on est loin du compte. Hein. Par exemple, au Brésil, la déforestation a repris de façon surréaliste. On considère actuellement que c'est près d'1 milliard d'arbres qui sont abattus en une année. On dit que c'est l'équivalent de 75 fois la surface de Paris. Bon, on donne des chiffres par équivalence, terrain de football, etc. Bon, ailleurs, en Malaisie, c'est l'huile de palme, les palmiers à huile. Alors là, par exemple, on a des bonnes nouvelles. Parfois, de temps en temps, il semblerait que les producteurs, sur pression de l'opinion publique qui a dénoncé cette situation, qui met en péril notamment les orang-outans, eh bien, ils ont eu l'idée, ils sont en train de le mettre en œuvre, de faire des corridors entre les différents espaces naturels préservés, parce qu'il reste des bouts de forêt ici ou là, et les orang-outans étaient notamment prisonniers de ces îlots forestiers, et maintenant il va y avoir des corridors, ils vont replanter. Et ça, ça commence à être plus fonctionnel, plus intelligent.
Alors, vos coups de gueule sont réguliers, hein, Alain Bougrain-Dubourg, et ces derniers temps, vous n'avez pas été épargné, hein, le projet de loi portant création de l'Office français de la biodiversité. On a parlé de la chasse en embuscade, hein, dans beaucoup d'articles et d'échos médiatiques, donc avec ce délit d'entrave à la chasse, notamment, qui a été proposé, punissable de 1 an d'emprisonnement et de 30 000 euros d'amende, et puis bien d'autres choses. La LPO a déposé plainte contre la France auprès de l'Union européenne pour lutter contre les infractions relatives à la chasse et au non-respect de la directive oiseaux. Est-ce que vous n'êtes pas fatigué de voir l'État récidiver chaque année dans les abus ?
Écoutez, c'est une chose qui me sidère et je crois quand même que le garde des Sceaux va devoir s'emparer de cette situation parce qu'enfin, un citoyen comme vous et moi, on fait une connerie, on est condamné. On récidive, on est condamné plus lourdement. On recommence à nouveau, on peut se retrouver en prison. Le Conseil d'État a condamné 12 fois de suite le ministère de l'écologie pour non-respect des périodes de chasse, etc., parce qu'il voulait chasser les oies en février. Bon, je vais pas revenir là-dessus. 12 fois l'État français est condamné, et 12 fois, ben, il recommence l'année suivante. Il n'y a pas d'alourdissement de peine. Il me semble qu'au bout de la 3e, de la 5e, on pourrait dire à l'État français, vous allez pas recommencer l'année prochaine quand même. Un autre exemple très rapide, le grand tétras qui est chassé, une espèce à l'agonie. Elle continue d'être chassée dans les Pyrénées. Donc nous, on va devant le tribunal administratif, 30 fois, c'est France Nature Environnement qui s'en est occupé tout particulièrement, a gagné devant le tribunal administratif pour qu'on arrête de tirer les grands tétras. Ben, ça continue. Non, mais on est vraiment dans un monde ubuesque. Et voyez-vous, je veux pas être démagogue à la petite semaine, mais les gilets jaunes, on comprend aussi. Il y a un moment, ou plus exactement, quand on comprend plus, on ne peut pas être tolérant. Il y a un moment où il faut secouer un peu la raison et le bon droit. Voilà. Et quand c'est la nature qui paye, c'est déjà pas bien quand c'est l'homme qui paye, mais quand c'est la nature, c'est l'intérêt général qui est remis en cause. C'est pour ça que malheureusement, de guerre lasse, après avoir tout épuisé sur le territoire français, on va maintenant porter plainte au niveau de la Commission européenne. On espère que la France va se mettre dans une situation de régularisation élémentaire à l'égard du respect du vivant.
Patrick Scheider, sur ces questions-là.
Oui, je suis tout à fait d'accord avec Alain et je lui dis l'autre fois parce que il a participé à une émission de télé, je ne sais plus laquelle, où il était confronté entre guillemets à des gilets jaunes. Et moi, je me désespérais de plein de gens que par ailleurs j'aime et j'admire. Je les entendais pas dire un seul mot au sujet de ce mouvement social qui est quand même très important. Moi, cette histoire que disent les gilets jaunes de manque de reconnaissance, par exemple. Moi qui travaille avec les jardiniers depuis 10 ans, je les entends dire ça. Ce sont des gens qui sont modestes. C'est pas tant non plus exclusivement une question d'argent que de pas gagner assez, qu'il y en a qui gagnent plus. Bon. C'est aussi le fait de pas être reconnu. Et ces jardiniers qui sont passionnés de leur travail, qui travaillent dans les collectivités, souvent disent, de toute façon, je le fasse ou je le fasse pas, à la rigueur, on s'en fout. Voilà. Faire comprendre, quel étrange management quand même, aux gens que finalement ils sont pas très utiles, que même ils sont pas irremplaçables, qu'au fond, ils sont pas grand chose. Quel chef d'entreprise voudrait être ça? C'est ridicule. Et pourtant, même dans l'entreprise, ça se fait. Cette façon de gouverner par le mépris, par l'ignorance, c'est inacceptable. Et c'est pour ça que je suis vraiment rentré en colère par rapport à certains écologues que par ailleurs j'aime, qui disaient pas un mot là-dessus, quoi. Ou alors quand ils se sont rapprochés des gilets jaunes, je trouve que c'est un peu opportuniste, quoi. Faut arrêter. Si on se préoccupe encore une fois que des plantes et que des animaux, bah alors ça veut dire qu'on n'a rien compris. Qu'on se met encore une situation, alors avant c'était l'homme dominateur, après c'est l'homme qui serait en dessous de tout. Non, c'est l'homme parmi les autres. Je crois que pour beaucoup, et des gens parfois beaucoup plus jeunes que Alain, bah, ils sont pas encore arrivés jusque là. Ou alors pour une visée politicienne qui est loin de me convaincre, voilà. Soyons plus près du terrain, aimons les gens, respectons-les, et peut-être là on va arriver à mettre tout le monde d'accord. Mais c'est pas suffisant de défendre une cause. Il faut en défendre plusieurs à la fois pour leur trouver une synthèse. C'est mon sentiment. Et qu'en prenant l'animal, ou la plante, ou l'art, on puisse se rassembler, c'est possible. Encore faut-il avoir une vision philosophique de ça. C'est ce que j'appréciais, par exemple, chez Jean-Marie, voilà, qui ne faisait pas des particularismes, chacun dans son petit coin. Toi, t'es pharmacien, toi, t'es biologiste, toi, t'es artiste. Non, il essayait de nous rassembler. C'est ça dont on a besoin.
Michael Onsdale, toutes ces questions-là, d'enjeux, l'environnement, les débats, les mouvements, les manifestations, le réchauffement climatique, comment est-ce que vous regardez ça, vous, aujourd'hui ?
Ben, je le regarde avec intérêt parce que ça me touche et m'inquiète et que j'espère de toutes mes forces pouvoir aider à faire comprendre ce qui se passe et le danger qui est là, voilà.
Ce réchauffement climatique, ça vous inquiète pour les générations futures ?
Oui, j'ai un peu peur. J'ai un peu peur parce que on veut tout transformer dans une chose mécanique. Et ça, c'est pas possible. La vérité, la beauté, c'est quelque chose qui est vivant, très vivant, fragile. Là, je passe sur un plan religieux complètement. Les chrétiens, quand ils se rassemblent, ben, c'est beau.
Se rassembler comme on voit le rassemblement autour de cette catastrophe qui touche Notre-Dame de Paris. Et vous dites que finalement, se rassembler autour de ces catastrophes environnementales, c'est aussi cette solution. Hein, c'est ce qui vous rassemble tous les trois, d'ailleurs. Alain Bougrain-Dubourg.
À propos de rassemblement, on est confronté, c'est inévitable, à l'arrivée des réfugiés climatiques. Mmh. Et des réfugiés pas simplement climatiques, des réfugiés de la vie, de la biodiversité, parce que le climat génère le désert, etc. Ben là, il va falloir qu'on se rassemble. On n'a pas d'autre choix. Michael parlait de l'usage du rassemblement qui est indispensable de loin en loin dans l'histoire de l'humanité. Ben là, il va falloir qu'on trouve les moyens d'accueillir, qu'on le veuille ou non, voilà.
Alors, est-ce qu'il y a des moments incroyables que vous avez partagés avec la nature, l'environnement, donc que ce soit animal ou végétal ? Des moments où vous êtes dit, elle me fait une confidence ?
Oui, à un endroit où je ne pensais pas bénéficier de ce moment magique, parce que moi j'aime la nature exubérante. J'aime l'Afrique, j'aime l'Amérique du Sud, j'aime les grands vols d'oiseaux, etc. Et j'étais en Antarctique. J'étais là-bas et avec un petit bateau, on tournait autour d'un iceberg et on m'a dit « Alain, est-ce que tu veux boire l'eau du Christ ?» Alors j'ai dit « Mais bien sûr, j'ai soif de l'eau du Christ. » Et c'est tout simplement le soleil qui tapait sur cet iceberg et qui libérait, on entendait un bruit comme un œuf au plat, vous savez, qui cuit, c'était les petites bulles d'air qui se libéraient par la glace qui fondait. Et cette glace fondée, j'ai tendu mes mains pour boire. Et si ça se trouve, c'était l'eau du Néandertal. On m'a dit que c'était le Christ. On a imaginé cette commission. Et là, je vous assure que devant la beauté de cette nature, sa fragilité aussi, puisque j'étais en train d'en recueillir les fruits qui avaient duré dans le temps et qui poursuivaient son cycle, d'une certaine manière, cette nature-là à travers l'eau. Alors là, oui, c'était un moment magique.
Patrick Scheider ?
Alors moi, c'est tout récent en fait, ces souvenirs-là. L'un, ça date d'il y a 6 semaines, l'autre, ça remonte à un an et demi. C'est des aspects de désert en fait, au Maroc. J'ai fait l'autre fois le voyage en bus de Marrakech à Essaouira. Il y a un moment de désert pierreux. Et contre toute attente, j'ai eu envie de pleurer, mais incroyable. Et comme ça pendant 3 quarts d'heure. Et j'arrive quasiment pas à me retenir, quoi. Les larmes sont coulées, je ne comprends pas pourquoi. Et puis l'autre fois, j'étais à Fès et je suis allé à Azro, tout près de l'endroit où Michael a tourné des hommes et des dieux, justement, c'était pour repérer ce terrain. Même chose, je passe dans un moment qui était désertique, mais beaucoup plus court, ça durait 2 minutes, ça m'a touché. C'est un désert de pierre, d'une aridité extrême, avec des gens, des berbères qui habitent là dans des genres de cabanes. Quelques moutons, mais ça avait une force, une violence même, qui m'a touché. En même temps, ça me violente et en même temps, j'aime. Il y a quelque chose de mystérieux là-dedans.
Michael Onsdale, un souvenir
J'ai un souvenir dans le Midi. J'habitais sur la Côte d'Azur pendant longtemps et il est apparu ce instrument qui était un tuyau, là, et puis des palmes. Et j'ai commencé à visiter en dessous. J'étais émerveillé. Alors je me suis rapproché de la grande montagne là, qui est à droite de Cannes. Et alors, le soir, le soleil se couchant là-dedans, c'était comme des joyaux, comme des pierres, c'était hallucinant. Et je me suis dit, oui, je veux voir ce qu'il y a en dessous. Et alors, il y a eu quelques poissons qui sont venus me dire bonjour. Quelques crabes, oui, qui ont sorti leurs pinces. Et c'était extraordinaire de découvrir l'intelligence de ces quelques bêtes. Enfin, oui. C'est tout un monde d'organisation, de capture, de libération. Les fourmis, par exemple, c'est hallucinant. Et mon frère, qui est mort maintenant, Gérald Galderon, avait fait plusieurs films sur les insectes, comme ça. Il avait mélangé une guêpière noire et l'autre rouge. Ça a été une bagarre.
Ah oui, des colonies de fourmis. Ah oui.
Alors, les choses merveilleuses, notamment une araignée australienne, je crois, la femelle, comme ça, qui attend que quelque chose soit pris dans ses... Et elle a un mari qui est tout petit.
Et qui lui fait des cadeaux.
Mais alors, il hésite beaucoup, parce que c'est que si jamais...
Il a raison.
Alors, oui, il s'approche et puis il met une patte pour faire vibrer un petit peu la toile. Alors la dame commence tout de suite à réagir. Et alors il se retire et puis il recommence 10 fois. Et à la 11e fois, il va tellement vite. Il dépose une larme comme ça ou de sperme à sa manière et il repart. C'est hallucinant. Mais si elle l'avait attrapé, elle le bouffait.
Ah oui. Les lois de la nature, Alain Bougrain-Dubourg, le mot de la fin. Alors,
méfions-nous des femelles.
C'est dur, ça.
Non, les lois de la nature, quel bonheur finalement. Quel bonheur. Et on a un pays singulier qui est l'un des plus riches en termes de biodiversité. J'inclus évidemment les Outre-mer. Et réjouissons-nous, ouvrons les yeux, réveillons nos sens, apprenons, réapprenons à écouter, à caresser, à goûter, à regarder. C'est un bonheur gratuit, potentiel.
Merci à tous les trois. Alain Bougrain-Dubourg, je rappelle le titre de votre dernier livre, « Lettres des animaux à ceux qui les prennent pour des bêtes », paru chez Librio, disponible oui. En tout cas chez Librio dorénavant. Patrick Scheider, « Écoutons la nature » de Lucrèce à Hubert Reeves, c'est chez Bayard. Également, Michael Lonsdale, « Viens, Esprit Saint, en nos cœurs », édité chez Ray. Et puis « Mes étoiles, les rencontres qui ont éclairé mon chemin » chez Bayard. Et puis je cite juste cette phrase qu'on trouve dans le livre « Mes étoiles » justement, « Les artistes ne font rien d'autre que passer des messages par le cœur. Merci de nous avoir passé vos messages par le cœur aujourd'hui. Et pour tous ceux qui voudraient avoir plus d'informations, tout est disponible sur le site de l'émission franceculture.fr, rubrique de cause à effet, téléchargement et réécoute à loisir. Et puis n'hésitez pas à nous suivre aussi sur Twitter, hashtag DCAEffet, ou sur notre page Facebook. Dimanche prochain, rencontre atypique avec l'astrophysicien Trinh Tuan Tuan et aussi avec un jeune auteur de bande dessinée, Cédric Talling. Et dans un instant, c'est la suite de vos programmes sur France Culture avec Être et Savoir et Louise Touret.